Théologie biblique par le Père Philippe à Saint-Joseph le 21 mai 85.
Continuons cette lecture de l'Exode pour découvrir la théologie de la liturgie. Je reprends le chapitre 29 rapidement. Et voici ce que tu leur feras pour les consacrer, afin qu'ils exercent pour moi le sacerdoce. Soulignez pour moi. Prends un jeune taureau et deux béliers sans défaut. Alors, le taureau, c'est bien que dans les quatre vivants, il y a le taureau, hein. Faut pas l'oublier. Et le taureau, c'est l'animal par excellence qui doit être offert, la victime noble. Un jeune taureau et deux béliers sans défaut, du pain d'azyme, des gâteaux d'azyme pétris à l'huile et des galettes d'azyme frottées d'huile. Tu les feras de fleurs de farine de blé. Tu les placeras dans une corbeille et tu les présenteras dans la corbeille en même temps que le taureau et les deux béliers. Vous voyez, quand on veut remettre les hosties dans une corbeille, oui. Tu feras apporter à Aaron et ses fils à l'entrée de la tente de la rencontre. Et tu les laveras avec de l'eau. Tu prendras les habits et tu revêtiras Aaron de la tunique, du manteau de l'éphode, du pectoral, et tu appliqueras sur lui l'écharpe de l'éphode. Tu mettras le turban sur sa tête et tu placeras le diadème sacré sur le turban. Tu prendras l'huile de l'onction et tu le verseras sur sa tête, et tu l'oindras. Tu feras approcher ses fils, et tu les revêtiras des tuniques. Tu leur passeras une ceinture à Aaron et à ses fils, et tu leur noueras des bonnets. Le sacerdoce leur appartiendra en institution perpétuelle, et tu les investiras. Et tu investiras Aaron et ses fils. Donc, vous voyez, le passage de l'habit à l'homme, le passage de l'habit au sacrifice. Hein, faut bien comprendre ça. On est dans une pédagogie divine. Or, de fait, c'est bien comme ça que ça nous est montré. C'est une pédagogie divine. Arriver, ce qui intéresse Dieu, c'est quoi? C'est que l'homme lui soit consacré. C'est pas des habits. C'est bien évident. Il n'y en a pas besoin. Tandis qu'il veut que l'homme lui soit consacré. Que le cœur de l'homme lui soit consacré. Tandis que les habits sont un signe extérieur, mais qui, pour nous, dans une pédagogie liturgique, ont leur place. Tu feras approcher le taureau devant la tente de la rencontre, et Aaron et ses fils appuieront leurs mains sur la tête du taureau. Tu immoleras le taureau devant Yahvé à l'entrée de la tente de rencontre. Tu prendras du sang du taureau et tu en mettras sur les cornes de l'autel avec ton doigt, et tu répandras tout le sang à la base de l'autel. Tu prendras toute la graisse qui recouvre l'intestin et la masse graisseuse au-dessus du foie, les deux rognons et la graisse qui est sur eux, et tu les feras fumer à l'autel. Et la chair du taureau, sa peau et sa fiente, tu les brûleras au feu hors du camp. C'est un sacrifice pour le péché. Oui. Intéressant de voir discernement que Dieu fait et de voir la signification du sacrifice. Il y a déjà eu des sacrifices avant, hein? Mais ici, vous voyez bien, on est en face d'un sacrifice qui tout de suite, je dis bien, prend une coloration liturgique d'une alliance de Dieu avec son peuple. Et c'est ça que Dieu veut. Tu prendras le premier bélier, et Aaron et ses fils appuieront leurs mains sur la tête du bélier. Et le signe d'appartenance. Vous voyez bien, ce signe que nous retrouvons dans la liturgie, à poser les mains. Alors je dis, il n'y a plus de bélier, il n'y a plus de taureau. C'est ceux qui sont consacrés à Dieu. Depuis le Christ, la bête est intérieure. Hein? Et c'est vrai. Elle est en nous. C'est Jésus lui-même qui a voulu être l'agneau. Il était l'agneau et s'est offert. Et à sa suite, nous sommes tous agneaux. Et nous sommes tous offerts. Et nous devons tous être offerts. Tu prendras le premier bélier, Aaron et ses fils appuieront leurs mains sur la tête du bélier. Tu immoleras le bélier, tu prendras son sang et tu aspergeras l'autel tout autour. Tu dépeceras le bélier par quartier, tu laveras son intestin et ses jambes et tu les placeras sur ses quartiers, sur sa tête. Puis tu feras fumer tout le bélier à l'autel. Un holocauste pour Yahvé, un parfum apaisant. C'est un sacrifice par le feu pour Yahvé. Alors notez toute cette diversité de sacrifices, hein, puisque tous ces sacrifices préfigurent le sacrifice du Christ. Donc, vous pouvez faire à partir de là toute une théologie descriptive du sacrifice du Christ. Tous. Chacun a un caractère particulier. Le sacrifice du Christ fait la totalité du sacrifice. C'est le sacrifice par excellence. Tu prendras le second bélier et Aaron et ses fils appuieront leurs mains sur la tête du bélier. Tu immoleras le bélier, puis tu prendras de son sang et tu le mettras sur le lobe de l'oreille. Le lobe de l'oreille droite d'Aaron et sur le lobe de l'oreille droite de ses fils, sur le pouce de leur main droite et sur le pouce de leur pied droit. Puis tu aspergeras de ce sang l'autel tout autour. Tu prendras du sang qui sera sur l'autel et de l'huile de l'onction et tu en feras jaillir sur Aaron et sur ses habits, sur ses fils et sur les habits de ses fils avec lui. Ainsi il sera consacré, lui et ses habits, ses fils et les habits de ses fils avec lui. Consécration par le sang. Sacrifice par le feu. Du bélier, tu prendras la graisse, la queue, la graisse qui recouvre l'intestin, la masse graisseuse du foie, les deux rognons et la graisse qui est sur eux, ainsi que la cuisse droite, et c'est le bélier d'investiture. Tu prendras aussi une miche de pain, un gâteau de pain à l'huile et une galette de la corbeille des azimes qui sera donnée devant Yahvé, qui sera devant Yahvé. Tu mettras le tout sur les paumes d'Aaron et sur les paumes de ses fils, et tu en opéreras le balancement devant Yahvé. Tu les prendras ensuite de leurs mains, et tu les feras fumer à l'autel par-dessus l'holocauste, en parfum apaisant devant Yahvé. Vous voyez, le parfum apaisant devant Yahvé, sacrifice de paix. Tu les feras fumer à l'autel par-dessus l'holocauste en parfum apaisant devant Yahvé. C'est un sacrifice par le feu pour Yahvé. Tu prendras la poitrine du bélier d'investiture qui est pour Aaron et tu en opéreras le balancement devant Yahvé. Ce sera ta part. Tu consacreras la poitrine du balancement et la cuisse du prélèvement. Ce qui a été balancé et ce qui a été prélevé du bélier d'investiture de celui qui est pour Aaron et de celui qui est pour ses fils. Ce sera pour Aaron et pour ses fils un dû perpétuel de la part des fils d'Israël. Car c'est un prélèvement, ce sera un prélèvement de la part des fils d'Israël sur leur sacrifice de paix, leur prélèvement pour Yahvé. Il y a un petit symbolisme à travers tout ça, c'est sûr, de voir comment certaines parties sont offertes et certaines parties sont brûlées. Les habits sacrés d'Aaron seront après lui pour ses fils, qui les porteront lors de l'onction et lors de leur investiture. Pendant 7 jours, en sera revêtu celui de ses fils qui sera prêtre à sa place, celui qui entrera dans la tente de la rencontre pour officier dans le lieu saint. Tu prendras le bélier de l'investiture et tu en feras cuire la chair dans un lieu saint. Aaron et ses fils mangeront la chair du bélier et le pain qui en sera dans la corbeille, à l'entrée de la tente de la rencontre. Ils mangeront ce qui aura servi à faire l'expiation en vue de leur investiture, en vue de leur consécration. Mais le profane n'en mangera pas, car ce sont des choses saintes. Vous voyez ici, profane, chose sainte, hein? S'il reste jusqu'au matin de la chair de l'investiture et du pain, tu brûleras ce reste au feu. On n'en mangera pas, car c'est une chose sainte. Tu feras ainsi pour Aaron et pour ses fils, selon tout ce que je t'ai commandé. Pendant 7 jours, tu les investiras. Tu offriras chaque jour un taureau en sacrifice pour le péché, pour l'expiation. Chaque jour, vous voyez, c'est quand même quelque chose. Tu offriras chaque jour un taureau en sacrifice pour le péché, pour l'expiation. Tu ôteras le péché de l'autel en faisant l'expiation pour lui et tu l'oindras pour le consacrer. Pendant 7 jours, tu feras l'expiation pour l'autel et tu le consacreras. Ainsi l'autel sera très saint. Tout ce qui touchera l'autel sera saint. Voilà ce que tu offriras sur l'autel. 2 agneaux âgés d'un an, chaque jour, perpétuellement. Tu offriras l'un des agneaux le matin. Le second agneau, tu l'offriras entre les 2 soirs, avec 1/10 de fleurs de farine pétrie dans un quart de hin d'huile d'olive concassée, et 1 libation d'un quart de hin de vin pour le premier agneau. Le second agneau, tu l'offriras entre les 2 soirs. Tu feras pour lui la même oblation que le matin et la même libation, en parfum apaisant, sacrifice par le feu pour Yahvé. Vous voyez le vin qui apparaît, hein? Le pain, le vin et les bêtes grasses offertes à Dieu. Ce sera un holocauste perpétuel dans toutes vos générations, à l'entrée de la tente de la rencontre devant Yahvé, là où je me rencontrerai avec vous pour te parler. C'est là que je me rencontrerai avec les fils d'Israël. Et ce lieu sera rendu saint par ma gloire. De nouveau, le mystère de la présence, vous voyez ? Le sacrifice conduit à la présence et permet la présence. Et la présence est liée à la gloire. C'est là que je me rencontrerai avec les fils d'Israël, et ce lieu sera rendu saint par ma gloire. Je consacrerai la tente de la rencontre et l'autel, Aaron aussi et ses fils. Je les consacrerai afin qu'ils exercent pour moi le sacerdoce, de nouveau. Ce sont des expressions très fortes, hein. Je demeurerai au milieu des fils d'Israël et je serai leur Dieu. Et ils sauront que je suis Yahvé, leur Dieu, qui les ai fait sortir du pays d'Égypte pour demeurer au milieu d'eux, moi, Yahvé, leur Dieu. Je ne crois pas qu'on demande beaucoup d'explications, ça en demanderait des quantités si on voulait regarder tout le symbolisme des sacrifices. Parce que c'est très net, hein. Il y a il y a un partage qui se fait. Et il y a le goût d'y avoir. Il y avait aime les graisses. Alors qu'est-ce que ça veut dire, ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a une signification, hein. Une signification profonde de ce que représente l'offrande de la graisse. Les réserves, hein, la graisse. Un être squelettique qui n'a pas de réserve. Tandis qu'un être où il y a de la graisse en quantité, il peut facilement passer une journée sans manger, ni boire. La graisse étant là, tandis qu'un être squelettique, non, est beaucoup plus dépendant. La graisse exprime cette espèce de surabondance d'autonomie, hein. Le vivant porte en lui son milieu. Et quand il est squelettique, il ne le porte pas en lui. Il est beaucoup plus dépendant du milieu. Là, vous voyez, transposer les graisses spirituelles, hein, c'est sûr. Il y a des êtres qui forment un milieu autour d'eux, et il y a des êtres qui dépendent totalement du milieu. Alors, il faut acquérir la graisse, hein, pour avoir cette autonomie divine. Et c'était cette autonomie divine, ce qui nous donne l'autonomie, c'est cela qu'on offre à Dieu. Vous voyez, c'est très très beau, pour retrouver le sens de la dépendance. C'est ça le sacrifice. C'est pour ça que le sacrifice va directement dans le sens de l'adoration. Le passage de l'adoration au sacrifice. Hein. L'adoration reconnaît sa dépendance totale vis-à-vis de Dieu. Or, l'être humain a toujours tendance de reprendre de l'autonomie. Le vivant, il engraisse. Et parce qu'il engraisse, il reprend son autonomie. Le passage du novice au prophète simple. Hein. Vous voyez bien. Alors, il engraisse, il reprend son autonomie. S'il offre vraiment tout en sacrifice, il redécouvre la dépendance totale. Et encore plus grande. C'est ce lieu extraordinaire, hein, le langage de Dieu à travers le sacrifice. Étudiez ça. Le langage de Dieu à travers le sacrifice. Et comprenez ce que ça veut dire en premier lieu, hein. Que c'est important pour nous de comprendre ce que le sacrifice veut dire en premier lieu. C'est lié à l'adoration pour que la créature spirituelle puisse manifester sa dépendance libre à l'égard de Dieu. Sa dépendance aimante à l'égard de Dieu. Tout sacrifice, c'est ça. On ne peut pas se suicider, alors on tue l'animal. Et en tuant l'animal, on exprime qu'on offre sa vie. Et c'est le propre, justement, de l'adoration liée au sacrifice qui va aller jusqu'au bout de cette offrande de nous-mêmes et cette acceptation de cette dépendance de nous-mêmes. Et chaque fois que vous avez la tentation d'autonomie, de ne pas obéir, hein, il n'y a qu'un seul moyen pour nous remettre dans la dépendance, c'est d'adorer. C'est impossible aujourd'hui d'obéir sans l'adoration. C'est absolument impossible, on est beaucoup trop autonome.
On a une autonomie bien plus forte qu'on n'a jamais eue, c'est sûr. Sans y penser, du reste, tout simplement. On respire cet air-là. Alors, comment entrer dans l'obéissance? C'est bien difficile. Par l'adoration, par le sacrifice. Il n'y a pas d'autre moyen. Et c'est parce que, justement, Freud n'a pas vu ce que représentait le sacrifice et ce que représentait l'adoration que l'obéissance devient impossible. Parce qu'on l'a coupé de sa base. Si vous m'aimez, vous observez mes commandements. Mais il y a l'adoration et l'amour. Et les deux sont liés, puisque c'est l'adoration en esprit, en vérité. Donc c'est ça que nous devons essayer de comprendre. Vous voyez, c'est comment Dieu constitue un peuple qui est son peuple, qui lui appartient, librement. Tu feras un autel pour faire fumer l'encens. Alors, ça, l'autel de l'encens. Alors, ça, c'est quelque chose de particulier. Tu feras un autel pour faire fumer l'encens. En bois d'acacia, tu le feras. D'une coudée sera sa longueur. D'une coudée sa largeur, il sera carré. Et de deux coudées sa hauteur. Ses cornes feront corps avec lui. Tu le recouvriras d'or pur, sa partie supérieure, ses parois, tout autour et ses cornes. Tu lui feras une moulure d'or tout autour. Tu lui feras deux anneaux d'or au-dessous de sa moulure, sur ses deux côtés. Tu les feras sur les deux flancs. Et ils serviront à loger les barres avec lesquelles on les transportera. Tu feras les barres en bois d'acacia et tu les recouvriras d'or. Tu le placeras devant le voile qui est près de l'arche du témoignage, devant la propitiatoire qui est sur le témoignage, là où je me rencontrerai avec toi. Aaron fera fumer sur lui l'encens aromatique. Chaque matin, quand il arrangera les lampes, il le fera brûler. Alors l'encens et la myrrhe, hein, brûler l'encens pour reconnaître la divinité de Dieu. Ce que les martyrs ont refusé lorsqu'on leur faisait brûler l'encens devant les idoles. Alors brûler l'encens, c'est un geste très très primitif et très profond, ça. Pour l'encens, pour exprimer, pour être le sacrifice, vous voyez, le sacrifice plus proche. Il y a le sacrifice des animaux, puis brûler l'encens. Et le psaume qui dit que notre prière est comme l'encens qui brûle, qui jaillit vers Dieu. Tu lui feras une moulure d'or tout autour. Tu lui feras deux anneaux d'or au-dessous de sa moulure, sur ses deux côtés. Tu les feras sur les deux flancs. Ils serviront à loger les barres avec lesquelles on le transportera. Ça, c'est une religion qui implique nécessairement le pèlerinage. On est pèlerin, on est la marche, ça c'est très net. Tu feras les barres en bois d'acacia et tu les recouvriras d'or. Tu le placeras devant le voile qui est près de l'arche de témoignage, devant le propitiatoire qui est sur le témoignage, là où je me rencontrerai avec toi. Aaron fera fumer sur lui l'encens aromatique, chaque matin, quand il arrangera les lampes, il le fera fumer. Et quand Aaron fera monter la lampe, monter les lampes entre les deux soirs, il la fera fumer en sang perpétuel devant Yahvé dans toutes vos générations. Vous ne ferez monter sur lui ni en sang profane, ni holocauste, ni oblation, et vous ne verserez pas de libation sur lui. Aaron fera l'expiation sur ses cornes une fois par an, avec le sang du sacrifice pour le péché, offert le jour des expiations, une fois par an. Il y fera l'expiation dans toutes vos générations. Ce sera une chose très sainte pour Yahvé. Vous voyez, l'autel de l'encens, l'encens qui est comme la prière qui monte vers Dieu, prière d'adoration et prière de louange. Yahvé parla à Moïse en ces termes. Lorsque tu feras le dénombrement des fils d'Israël pour les recenser, ils donneront chacun à Yahvé une rançon pour leur vie lorsqu'on les recensera. Et il n'y en aura pas chez eux, il n'y aura pas chez eux de fléau lorsqu'on les recensera. Voici ce que donnera quiconque sera soumis au recensement. Un demi-cycle suivant le cycle du sanctuaire, le cycle de Vingéras. Le demi-cycle sera un prélèvement pour Yahvé. Quiconque sera soumis au recensement depuis l'âge de 20 ans et au-dessus acquittera le prélèvement de Yahvé. Le riche ne donnera pas plus. Et le pauvre ne donnera pas moins d'un demi-cycle pour acquitter le prélèvement de Yahvé comme rançon de vos vies. Toujours cette idée. Nous, petit à petit, nous prenons un droit sur notre vie. Alors que nous ne devons pas avoir de droit sur notre vie. Notre vie appartient à Yahvé. Elle appartient à Dieu. Et nous devons lui offrir cette vie. Nous devons le reconnaître. Alors c'est ça que ce genre de sacrifice veut rappeler ça. Aaron fera l'expiation sur ses cornes une fois par an. Avec le sang du sacrifice pour le péché, offert le jour des expiations. Une fois par an, il y fera l'expiation dans toutes ses générations. Ce sera une chose très sainte pour Yahvé. Yahvé parla à Moïse en ces termes. Lorsque tu feras le dénombrement des fils d'Israël pour les recenser, ils donneront chacun Yahvé une rançon pour leur vie. Donc c'est cette idée de vraiment se remettre entièrement entre ses mains. Voici ce que donnera quiconque sera soumis au recensement. Un demi-cycle suivant le cycle du sanctuaire. Le cycle de Vingéras. Le demi-cycle sera un prélèvement pour Yahvé. Quiconque sera soumis au recensement depuis l'âge de 20 ans et au-dessus acquittera le prélèvement d'Yahvé. Le riche ne donnera pas plus que le pauvre. C'est très beau pour bien nous faire comprendre que c'est la vie humaine comme telle. Le riche ne donnera pas plus que le pauvre, ne donnera pas moins d'un demi-cycle pour acquitter le prélèvement d'Yahvé, comme rançon de vos vies. Tu prendras des fils d'Israël l'argent de cette rançon et tu le leur donneras pour le service de la tente de la rencontre. Il servira aux fils d'Israël de mémorial devant Yahvé pour la rançon de vos vies. Donc, l'exigence de reconnaître en face de Dieu cette dépendance totale et cette remise de quelque chose qui rachète les vies. Vous voyez, Je crois que c'est concrétiser le geste de l'adoration. Faire que le geste de l'adoration soit concrétisé dans notre avoir. La graisse, l'avoir. Yahvé parla à Moïse en ces termes: tu feras un bassin en bronze et son support en bronze pour l'ablution. Et tu le placeras entre la tente de la rencontre et l'autel. Tu y mettras de l'eau, dont Aaron et ses fils se laveront les mains et les pieds. Quand ils entreront dans la tente de la rencontre, ils se laveront avec l'eau pour ne pas mourir. De même, quand ils s'avanceront vers l'autel pour officier, pour faire fumer un sacrifice par le feu pour Yahvé, ils se laveront les mains et les pieds pour ne pas mourir. Ce sera pour eux un décret perpétuel pour Aaron et pour sa descente dans toute leur génération. Pour ne pas mourir. Se laver les mains et les pieds pour ne pas mourir. L'exigence de purification. L'exigence de purification. Je crois que c'est cette idée-là profonde, se laver les mains et les pieds. Jésus lave les pieds pour ne pas mourir, pour ne pas subir, si vous voulez, le châtiment de ses fautes. Alors, purification par là. Yahvé parla à Moïse en ces termes: et toi, procure-toi des bassins les meilleurs, de la myrrhe fluide, 500 cycles, du cinnamoine aromatique, la moitié de 250 cycles, de la cannelle aromatique, 250 cycles, de la casse, 500 cycles, suivant le cycle du sanctuaire, et l'huile d'olive un. Tu en feras une huile pour l'onction sainte, une mixture de parfums, œuvre de parfumeur. Ce sera l'huile pour l'onction sainte. Tu en oindras la tente de la rencontre et l'arche du témoignage, la table et tous les accessoires, le candélabre et ses accessoires, l'autel de l'encens, l'autel de l'holocauste et tous ses accessoires, le bassin et son support. Tu les consacreras et ils seront une chose très sainte. Tout ce que les touchera sera saint. Tu oindras ainsi à Aaron et ses fils et tu les consacreras afin qu'ils exercent pour moi le sacerdoce. Et aux fils d'Israël, tu parleras en ces termes: ce sera l'huile de l'onction sainte pour moi dans toutes vos générations. On n'en versera pas sur la chair d'un homme et vous n'en ferez pas de même composition, et vous n'en ferez pas de même composition que celle-là. C'est une chose sainte. Ce sera pour vous une chose sainte. Quiconque fera un parfum semblable à celui-là et qui en mettra sur un profane sera retranché d'entre les siens. Toujours la même idée. L'aspect religieux nous met dans cette dépendance totale vis-à-vis de Dieu. Et donc dans une obéissance absolue à l'égard de Dieu. Alors l'huile apparaît là justement comme toujours la grâce de douceur de Dieu et la grâce de force. Yahvé dit à Moïse: procure-toi des aromates, de la résine, de l'ongle odorant, du galbanum, des substances aromatiques et de l'encens pur, ils seront à part égale. Tu en feras un parfum brûlé, un parfum œuvre de parfumeur. Il sera salé, pur, saint. Tu en boiras une partie en poudre et tu en placeras devant le témoignage, dans la tente de rencontre, là où je me rencontrerai avec toi. Ce sera pour vous une chose très sainte. Le parfum que tu feras, vous n'en ferez pas pour vous de même composition. Ce sera pour toi une chose sainte, réservée à Yahvé. Quiconque en fera de semblable
pour en respirer l'odeur, sera retranché entre les siens. C'est réservé à Dieu, c'est une chose sacrée. Et si l'homme s'approprie les choses sacrées, alors à ce moment-là, il est rejeté. Il ne peut plus vivre avec les autres. Il brise la communion avec Dieu. Il y avait par là Moïse, en ces termes, voix. J'ai appelé nommément Bécalel, fils d'Ouri, fils de Hour, de la tribu de Juda. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, habileté, adresse, savoir-faire pour tout travail, pour concevoir des œuvres d'art, pour travailler l'or, l'argent et le bronze, pour tailler la pierre à sertir, et pour tailler le bois pour exécuter tout travail. Et voici que moi, je lui adjoins Oholiab, fils d'Aï Samak, de la tribu de Dan. Vous voyez, c'est curieux, hein ? Là aussi, on a déjà vu ça. On parle de l'Esprit de Dieu. Habileté, adresse, savoir-faire pour tout travail. Les dons du Saint-Esprit sont du côté de l'adjéré. Ici, on parle d'un don de Dieu, rempli d'Esprit de Dieu, par rapport au fatcheré. Ça pose des petits problèmes, ça, point de vue théologique. Hein. C'est vrai, on est très habitué à voir les dons du Saint-Esprit uniquement du côté de l'agir, du côté des béatitudes évangéliques. On ne voit pas d'habitude l'Esprit de Dieu du côté de l'habileté. Quand vous voyez un menuisier très habile, plein de dévotion, et très habile, n'est-ce pas ? On vous le dit, l'Esprit de Dieu repose sur lui. On n'a pas l'habitude de faire ça. Alors, c'est curieux. Est-ce que c'est propre à l'ancienne alliance ? Est-ce que c'est quelque chose qui a été oublié après ? Quand le Saint-Père, dans son encyclique sur le travail, dit qu'il y aurait une vertu propre au travail, qui serait l'ardeur, le Saint-Père dit ça du reste, en sachant très bien qu'il dit quelque chose qui... Faut faire un petit peu attention. Reste qu'il y a une réminiscence avec ça. Très curieux. Il y a quelque chose, il faut se poser la question. Puisque c'est dit explicitement, hein. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, habileté, adresse, savoir-faire pour tout travail, pour concevoir des œuvres d'art, pour travailler l'or, l'argent et le bronze, pour tailler les pierres à sertir et pour tailler le bois, pour exécuter tout travail. C'est extraordinaire, l'Esprit de Dieu. Faire de lui un artiste. Ça ne fait pas partie des dons du Saint-Esprit. Alors, est-ce que ça fait partie des charismes ? Est-ce que ça fait partie des charismes ? Et dans l'esprit de tout homme habile, j'ai mis de l'habileté pour qu'on fasse tout ce que je t'ai commandé, la tente de la rencontre, l'arche pour le témoignage, le propitiatoire qui est sur elle, et tout le mobilier de la tente, la table, les accessoires, le candélabre pur et tous ses accessoires, l'autel de l'encens, l'autel de l'holocauste et tous ses accessoires, le bassin et son support, les habits, la parole, et les habits sacrés pour Aaron, le prêtre, et les habits de ses fils pour exécuter le sacerdoce. Pour exercer le sacerdoce, l'huile de l'onction et l'encens aromatique pour le lieu saint. Selon tout ce que je t'ai commandé, ils feront. Bon, on voit bien que tout ce qui a été dit avant doit être exécuté par un esprit qui vient de Dieu. Ce n'est pas seulement une habileté humaine artistique à laquelle Dieu fait appel, il y a quelque chose qui est dans le don de Dieu. Ça, il faut se poser la question. Tout ça est évidemment ordonné à la liturgie.
l'art liturgique. Alors, par l'art liturgique, vous comprenez, on retrouve une finalité qui est morale. L'adoration. Et par l'adoration, on retrouve la possibilité de l'Esprit de Dieu, donné et communiqué. Je crois que c'est comme ça qu'il faut comprendre. Autrement, ce serait quelque chose qui serait complètement en dehors de toute la doctrine habituelle. Parce que vous voyez la distinction entre le point de vue de l'habileté et le point de vue de la vertu, c'est pas la même chose du tout. Au noviciat, il y a des gens très vertueux et inhabiles. Et il y a des gens très habiles et non vertueux. Ça existe. Alors ils s'imposent par leur efficacité, mais ça fait grincer des dents. Alors, c'est très curieux qu'ici, on voit un art religieux, un art liturgique, donc ordonné à une alliance avec Dieu, et que cet art liturgique, pour être réalisé pleinement et totalement, donnant l'habileté aux gens habiles, quoi, c'est pour montrer que ça doit aller jusqu'au bout, du côté de l'efficacité et du côté de la beauté, il y a un don de Dieu. Il faut y réfléchir à ça. Alors ici, nous entrons dans quelque chose qui est extrêmement important. Yahvé dit à Moïse, et toi parle aux fils d'Israël en ces termes, surtout vous observerez mes sabbats, car c'est un signe entre moi et vous pour toutes vos générations, afin qu'on sache que je suis Yahvé qui vous sanctifie. Vous observerez le sabbat, car c'est pour vous une chose sainte. Celui qui le profanera sera mis à mort. Oui, quiconque fera du travail en ce jour, cette personne-là sera retranchée du milieu des siens. C'est farouche. C'est très beau. C'est la boucle, vous voyez. Dans le travail. Dans le travail, l'exigence du repos. Parce que le travail ne conduit pas directement à Dieu. Le travail conduit à une œuvre. Tandis qu'au contraire, lorsqu'il s'agit de l'adoration, et on adore tout le temps, on ne va pas fixer un jour spécial. Quand il s'agit du travail, il faut arrêter. Mais c'est la grande éducation de Dieu sur le travail. Ça. Dieu sait très bien que l'homme se trouve très bien dans son travail. Et c'est vrai. On se trouve très bien. Surtout quand on est un peu habile. Quand on arrive à réussir des choses. Et par le fait même, on reçoit un peu de gloire. Il y en a un seul qui fait bien la cuisine, les jours de fête, il faut l'en demander. Mais c'est forcé, parce que pendant la semaine, on peut tous manger mal, mais au moins les jours de fête, c'est pas qui ça. Alors, on voit très bien comment le travail s'impose. On a une situation, et c'est très vrai ça, par le travail on a une situation. Alors, il faut être humble, il faut être doux, il faut être beau, il faut adorer. Par l'adoration, vous n'avez aucune situation. Aucune. Vous avez la dernière. Mais vous n'avez pas de situation. Alors, on voit très bien cette exigence de pédagogie divine, cette exigence d'éducation divine sur le travail. Il faut que Dieu pénètre dans le travail. Et Dieu ne pénètre pas directement dans le travail. C'est pour ça qu'il faut un trou. Vous observerez le sabbat, car c'est pour vous une chose sainte. Celui qui le profanera sera mis à mort. Oui, quiconque fera du travail en ce jour, cette personne-là sera retranchée du milieu des siens. Pendant 6 jours, on fera du travail. Mais le 7e est un sabbat, un repos sabbatique consacré à Dieu. Quiconque fera du travail le jour du sabbat sera mis à mort. Les fils d'Israël observeront le sabbat, pratiquant le sabbat dans toute leur génération. C'est une alliance perpétuelle entre moi et les fils d'Israël. C'est un signe à jamais, car en 6 jours, Yahvé a fait le ciel et la terre, mais le 7e, il a chômé et il a repris haleine. Et alors, pour rappeler que Dieu a repris haleine, il faut le sabbat. C'est très très beau. La liturgie du sabbat, du reste, est très très belle en Israël. Elle est merveilleuse. C'est beau, c'est grand. C'est... Alors, vous voyez, tout le petit problème qui va se poser ensuite, parce qu'il se pose aujourd'hui. Doit-on continuer d'observer le sabbat? Sabbat à perpétuité. C'est comme pour la messe de Saint-Pie V. À perpétuer, une alliance perpétuelle. Ah, c'est une alliance perpétuelle, il y a un sceau divin, il y a Dieu, Dieu l'a dit, on ne peut pas le supprimer. Hein, ça se pose chez certains, il faut bien se le dire, hein, c'est pas du tout. Il y a une question qui se pose, comment? Alors il faut, je crois, entrer dans les intentions de cette institution perpétuelle. C'est pour sanctifier la personne humaine, le travailleur. Je crois que c'est donné avant tout pour ça. Et nous rappeler le repos de Dieu. Nous rappeler que la création est ordonnée à l'adoration. Et que le travail est ordonné à l'adoration et à la louange. Entre moi et les fils d'Israël, c'est un signe à jamais. C'est un signe et une alliance. Lorsqu'il eut achevé de parler avec Moïse sur le mont Sinaï, Yahvé lui donna les deux tables de témoignage, tables de pierre écrites du doigt de Dieu. C'est important. Le doigt de Dieu, vous savez que le doigt, c'est un des signes symboliques de l'Esprit Saint. Le doigt de Dieu. C'est écrit par l'Esprit de Dieu. Le peuple vit que Moïse tardait à descendre de la montagne. Le peuple s'assembla auprès d'Aaron. Alors, un petit épisode extrêmement intéressant. Jusque-là, on était dans le ciel. On voyait Dieu qui donnait son projet religieux d'éducation religieuse pour le peuple. Il le donnait à Moïse. Et Moïse recevait. Moïse était docile à l'action de Dieu. Mais le peuple qui attend, c'est un peu trop long. Il ne faut pas de révélation trop longue. Vous voyez, quand les révélations sont trop longues, les autres commencent à s'impatienter. Alors on voit très bien ça. Le peuple vit que Moïse tardait à descendre de la montagne. Le peuple s'assembla auprès d'Aaron et lui dit « Debout, fais-nous un Dieu qui marche devant nous. Car ce Moïse, l'homme qui nous a fait monter du pays d'Égypte, nous ne savons pas ce qui lui est arrivé. » C'est un rapt de Dieu. Dieu l'a emmené. Alors il n'a plus du tout envie de revenir. Oui, toujours cette image de la caverne. Quand on sort de la caverne et qu'on est emmené par Dieu, on n'a plus du tout envie de revenir. Et c'est vrai, ça, c'est très vrai. C'est cette emprise de Dieu qui fait qu'on n'est plus pour les hommes. Aaron leur dit, arrachez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils, et de vos filles. Ne vous souvenez pas qu'ils avaient emporté tout ça d'Égypte. Hein, il ne faut pas l'oublier. On leur avait demandé de prendre le plus de choses possibles pour passer la douane. Et alors, il fallait emmener le plus de choses possibles. De vos filles, et apportez-les-moi. Tous s'arrachèrent les anneaux d'or qu'ils avaient aux oreilles, les apportèrent à Aaron. Il prit cet or de leurs mains, le façonna au burin et en fit un veau de métal fondu. Ils dirent alors, voilà ton Dieu, Israël, qui t'a fait monter du pays d'Égypte. C'est extraordinaire ce passage. Et vous voyez qu'Aaron est dans le coup. C'est assez étonnant. Ce que voyant, Aaron bâtit un autel devant lui. Puis Aaron cria et dit, « Demain, fête pour Yahvé !» Dès le lendemain, ils se levèrent de bon matin, offrirent des holocaustes et présentèrent des sacrifices de paix. Le peuple s'assit pour manger et boire. Ça reste toujours la même chose. Oui. Après l'office, il faut s'asseoir pour manger. Et plus l'office a été long, plus il faut s'asseoir pour manger et boire. C'est le rythme hein, que Dieu nous donne. Le peuple s'assit pour manger et boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Après la récréation. Yahvé parla à Moïse, « Va, descends, car ton peuple que tu as fait monter du pays d'Égypte s'est perverti. Ils se sont écartés bien vite de la voie que tu leur avais prescrite. Ils se sont fait un veau de métal fondu. Ils se sont prosternés devant lui. Ils l'ont sacrifié. Ils ont dit, voici ton Dieu Israël qui t'a fait monter du pays d'Égypte. Yahvé dit à Moïse, j'ai vu ce peuple et voici, c'est un peuple à la nuque raide. Et maintenant laisse-moi que ma colère s'enflamme contre eux et que je les extermine, tandis que je ferai de toi une grande nation. Toujours cette même idée, hein, toujours dans l'économie divine, vous retrouvez ça. Hein, le déluge, Moïse. Hein, pas l'oublier. Et on fait de Moïse une reprise radicale de tout. Je veux dire, on fait de Noé une reprise radicale de tout. Eh bien, ici, Dieu émet la même vision. Il va les exterminer. Moïse apaisa la face de Yahvé, son Dieu, et dit, « Pourquoi, Yahvé, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande vigueur et par une main forte ? Pourquoi les Égyptiens, diraient-ils, c'est par méchanceté qu'il les a fait sortir pour les tuer dans les montagnes et les exterminer de la surface du sol. Reviens de l'ardeur de ta colère et repens-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. Souviens-toi d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, tes serviteurs, à quoi tu as juré par toi-même, à qui tu as juré par toi-même et à qui tu as dit « Je multiplierai votre descendance comme les étoiles du ciel, et tout pays dont j'ai parlé, je le donnerai à votre descendance, et ils hériteront, et ils en hériteront à jamais. » Yahvé se repentit du mal qu'il avait parlé de faire à son peuple. Alors voyez, ça c'est tout à fait nouveau. Hein. Vous n'avez pas ça chez Noé. Vous avez là le pouvoir extraordinaire d'un Moïse d'apaiser la colère de Yahvé. Et ça fait partie du rôle du médiateur. Hein. Moïse est législateur, mais il est médiateur. Il est législateur et médiateur. Alors ici, il nous est montré ce rôle de médiation. Il est en présence de la colère de Yahvé. Jamais commode d'être en présence de la colère de Dieu. Il est en présence de la colère de Yahvé. Et cette colère de Yahvé, Moïse veut l'apaiser. Il plaide pour son peuple. Et voyez comment il plaide. Hein? Pourquoi Yahvé, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple que tu as fait sortir du pays d'Égypte par une grande vigueur et par une main forte. Pourquoi les Égyptiens diraient-ils, vous voyez, le plaidoyer à la manière humaine, hein, comme si Dieu était sensible à ça. Mais ça, c'est pour nous faire comprendre, c'est pour nous, hein, c'est pour nous faire comprendre la prière de Moïse, l'intercession de Moïse. Et c'est vrai, ces choses-là, on les a retrouvées, n'est-ce pas ? On dit que Dieu a un certain sadisme. On n'a pas le droit de le dire, c'est bien évident, c'est blasphématoire de dire ça. Mais quand on regarde les choses de l'extérieur, on dit pourquoi tant de souffrance ? Pourquoi tant de douleur ? Ça, c'est le grand mystère qui demeure. Hein ? Moïse reste médiateur de l'ancienne alliance. Moïse se tourna et descendit de la montagne, les deux tables du témoignage dans sa main, tables écrites sur leurs deux côtés, écrites de part et d'autre. Les tables étaient l'œuvre de Dieu. Et ce qui était écrit était un écrit de Dieu, gravé sur les tables. Josué entendit la rumeur du peuple avec ses acclamations et dit à Moïse, « Rumeur de guerre au camp !» Moïse dit, « Ce n'est pas une rumeur de chant de victoire. Ce n'est pas une rumeur de chant de défaite, c'est une rumeur de chant alterné que j'entends. » C'est curieux, vous voyez, distinguer la liturgie. Hein, vous voyez bien. Lorsqu'il approchait du camp, il vit le veau et le dent. La colère de Moïse s'enflamma. Il jeta de sa main les tables et les brisa au pied de la montagne. Il prit le veau qu'ils avaient fabriqué, il le brûla par le feu, le pilla jusqu'à ce qu'il fût réduit en une poussière qu'il dissémina à la surface de l'eau et il en fit boire aux fils d'Israël. La punition. Là, vous voyez, toutes les dépouilles d'Égypte qui ont servi à la construction du veau d'or, et tout ça, dans la colère de Moïse. C'est très beau, la colère de Dieu qui passe en Moïse. Hein. Et au fond, Moïse porte sur lui la colère de Dieu. C'est pour ça que Dieu s'apaise. Et c'est dans ce sens-là qu'il est médiateur. Moïse dit à Aaron, que t'a fait ce peuple pour que tu lui aies fait encourir un grand péché. Aaron dit, que la colère de mon Seigneur ne s'enflamme pas. Tu sais toi-même que ce peuple est enclin au mal. Ils m'ont dit, fais-nous un Dieu qui marche devant nous, car ce Moïse, l'homme qui nous a fait monter du pays d'Égypte, nous ne savons pas ce qui lui est arrivé. Je leur ai dit, tire de l'or. Ils l'ont arraché de leurs oreilles et me l'ont donné. Je l'ai jeté au feu et il en sortit ce veau. Voilà, ça c'est un petit arrangement. Merveilleux pour ça, diminuer sa culpabilité. Moïse vit que le peuple était débridé, car Aaron lui avait lâché la bride, l'exposant à la gouaille de ses agresseurs. Moïse se tint à la porte du camp et il dit, qui est pour Yahvé à moi ? Tous les fils de Lévi se réunirent auprès de lui. Il leur dit, ainsi parle Yahvé, Dieu d'Israël. Mettez chacun le glaive à la hanche.
passez et revenez dans le camp de porte en porte et tuez qui son frère, qui son ami, qui son proche. Vous voyez la différence de la colère de Dieu et la colère de Moïse. Les fils de Lévi agirent selon la parole de Moïse et du peuple. Il tomba ce jour-là environ 3 000 hommes.